nous sommes dans le jugement de sagesse, je vous ai, pour vous montrer, les 24 thèses thomistes. C'est bon de jeter un petit coup d'œil, vous voyez. Je ne vous demande pas de... C'était, au fond, le grand enseignement de la philosophie thomiste. C'est de 1960. C'est pas si vieux, hein. Et ça s'enseigne, je suis persuadé encore maintenant. C'est de Grenet, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors, oui, on mettait le jugement de sagesse, et on disait pas que c'est un jugement de sagesse, on disait les 24 thèses thomistes. C'était au fond le résumé de la pensée thomiste. C'est bon de le savoir, pour voir quand même tout le chemin qu'on a fait. Bon, on ne l'a jamais enseigné, les 24 thomistes. Et je n'ai jamais enseigné. Mais on s'y reconnaît, vous voyez. Première thèse. Potentia et actus, ita dividunt ens, ut quidquid est vel sit actus purus, vel ex potentia et actus, tamquam primis, atque intrinsecis principis, necessario collescat. Alors, je traduis pour que vous compreniez mieux la traduction. La puissance et l'acte divisent l'être de telle sorte que tout ce qui est ou bien soit acte pur, vous voyez, la puissance de Dieu, puisque vous divisez acte et pur, il y a donc un acte pur, donc il y a Dieu. C'est purement théorique. Ou bien soit acte pur, ou bien soit composé nécessairement de puissance et d'acte, comme principe premier et intrinsèque. Cette proposition est contenue ouvertement dans les œuvres de saint Thomas, non seulement dans la Somme, où il est dit Cum potentia et actus divinunt omne ens et omne genus entis, mais aussi dans métaphysiquement. Oui, alors l'acte et la puissance, à la place de le découvrir comme principe selon la fin de l'être est découvert comme quelque chose de donné. Tout est acte ou puissance. Mais vous ne saisissez pas du tout l'acte et la puissance au niveau de l'être quand vous dites ça. Vous saisissez simplement, oui, c'est vrai ça. C'est vrai, tout est acte ou puissance. Or, ce n'est pas ça du tout, l'acte et la puissance d'Aristote. C'est une saisie des principes. L'acte est principe, mais la puissance n'est pas principe. Oui, et alors vous saisissez acte et principe comme au point de vue dialectique. Pour saisir l'acte, il faut saisir la puissance. L'opposé, pour saisir la puissance, il faut saisir l'acte. Alors ça, c'est donc la première thèse. La seconde thèse, il y en a 24. Je ne vais pas vous le lire toutes. Thèse première, division de l'acte en acte et en puissance. seconde thèse, la puissance limitatrice est multiplicatrice de l'acte, unicité et infinité de l'être, de l'acte pur. Unicité et infinité de l'acte pur. Donc, on saisit le rôle de la puissance limitatrice est multiplicatrice de l'acte. L'acte est un par lui-même. Si l'acte se divise, il le fait par la puissance. Alors, revenons à ce que nous avons dit. On est dans un jugement sagesse. Je vous avais rappelé la dernière fois que le jugement de sagesse se fait une fois qu'on a découvert l'existence de l'être premier. Donc le jugement de sagesse n'est jamais dans la découverte, dans invention, la découverte. La découverte se fait toujours par raisonnement inductif, à partir d'expérience. Et à partir d'expérience, on découvre les principes. Donc, le premier moment du jugement d'existence, du jugement de sagesse, sera la première division, l'ultime division à laquelle on aboutit dans l'analyse. On aboutit à voir nature et personne. C'est vrai, je crois, pour découvrir l'existence de Dieu, pour nous actuellement, c'est le plus simple, c'est de prendre la voie de la nature et la voie de la personne, et de voir que les deux vont courir. La nature, c'est l'être justement en acte et en puissance. La nature, c'est tout ce qui en nous est nécessaire, tout ce qui nous est donné, tout ce que nous n'avons pas choisi. Votre nature, vous ne l'avez pas choisi. Vous êtes des hommes. Très bien. Des bourgeois. Vous êtes nés femmes. Des bourgeois. Vous êtes né bœuf, vache, mouton, crapaud, débrouille-toi. La nature, c'est le donné. Et en plus, nous avons la personne. Et plus j'avance, plus ma personnalité enveloppe ma nature. Il y a un moment où les deux sont en équilibre, nature et personne. Mais quand vous avancez, quand vous allez toujours plus loin dans votre personne, vous ne pensez plus beaucoup à la nature, si ce n'est que vous avez un estomac qui peut être malade, que vous devez dormir pour rester éveillé, que vous... Mais ça, c'est ma nature. Je peux modifier, je peux arriver à dormir le moins possible, mais il y a un moment où la nature crie. Bon, la nature, c'est ce qui s'impose à moi. La nature, elle est comme ça. et je le découvre tous les jours un peu plus. Et je sais très bien que ma nature implique des passions, que ma nature aussi implique l'intelligence, que ma nature implique la volonté, et que le développement de l'intelligence et de la volonté sera le développement de ma personne. Donc la personne naît de la nature, mais la dépasse. Je crois que ça, nous pouvons tous comprendre ça. C'est pour ça qu'au point de vue philosophique, le point de vue nature et personne sont quelque chose de si important. Et que la nature me mène à Dieu et la personne me mène à Dieu. Les preuves classiques de l'existence de Dieu s'appuient sur la nature. Sur l'être. Les preuves classiques de l'existence de Dieu. Mais on peut ajouter à ces preuves celles qui s'appuient sur la personne. Ce sera l'amitié. Et j'aurai par le fait même ces deux voies convergentes qui m'aident beaucoup à poser l'existence de Dieu. Nature, personne. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'au fond, le développement de la philosophie dans notre monde européen et américain, c'est la nature et la personne. Jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, la nature s'impose presque seule. Et on voit apparaître dès le XIVe siècle, chez les théologiens, un primat de la personne et une négation presque totale de la nature. Dès le XIVe siècle. C'est fait le développement de plus en plus de la personne. Comme c'est fait en opposition vis-à-vis de la nature, dialectiquement, au fond, cette recherche de la personne, comme chez Descartes, c'est la personne du cogito, je pense. Alors que si ce développement de la personne ne se fait pas en sept contrats de celui de la nature, je peux dire que j'ai comme deux pistes, celle de l'être et celle de la personne. Et en réfléchissant bien, je me dis, c'est les deux pistes possibles. Ceci est, je suis. Et c'est intéressant de voir comment ces deux pistes doivent aboutir nécessairement à se poser la question : existe-t-il un être premier ? Existe-t-il un être premier du côté de l'être, du côté de la personne ? Et je crois que si je respecte ces deux pistes, j'assume, je peux assumer tout ce qui a été dit au point de vue métaphysique avant le XIVe siècle suit ce qui a été dit depuis le XIVe siècle. On a eu une peine énorme à découvrir ce qu'est la personne. Et tout le problème de la psychologie est né à partir de ces luttes personnelles, ce combat permanent à découvrir en moi ce que je suis, et puis découvrir qu'il existe un être premier. Et ces deux recherches doivent s'unir pour découvrir l'essence de Dieu. Je crois que c'est cela qu'on doit faire. Vous voyez, ça, l'immense avantage, c'est que on s'aperçoit que le développement de notre métaphysique, d'Aristote à Descartes à Kant, au fond, tout cet effort métaphysique aboutit à l'existence de Dieu. Une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu, je peux redescendre et faire cette descente avec le plus d'intelligence possible. Ces deux preuves présupposent la distinction entre nature et personne. Quand je découvre l'existence de Dieu, la première chose que je découvre, c'est que cet être premier est nécessairement absolument simple. Donc, en lui, il y a identité entre nature et personne. Et je crois que c'est la première chose qu'on peut faire à propos des mystères de Dieu. Et donc, le premier jugement de sagesse sera de voir en Dieu seul, il y a identification, identité de la nature et de la personne. En Dieu seul, en toutes les créatures, en tous les hommes, il y a une distinction entre nature et personne. Vous voyez ? Et on doit respecter la distinction. La supprimer, ça fait deux positions extrêmes. Supprimer la nature et ne voir que la personne, on connaît le genre de philosophie qui fait ça. Sartre. Petit-fils de Descartes. Au fond, pour lui, la chose suprême, c'est la négation. Si la négation est la chose suprême, vous niez complètement tout ce qui est naturel. Parce que le naturel, les choses naturelles, s'imposent à nous d'une façon affirmative. Ceci est. Or, c'est la négation qui est première. Donc, la nature disparaît. Et il n'y a plus que la personne qui nie. Je suis moi-même, le plus moi-même, en niant tous les autres. Il y a un petit quelque chose de vrai. Parce que tant que j'affirme que les autres sont, je suis donc relatif aux autres. Et si les autres sont très importants, sont très nombreux, je suis un petit point au milieu de tous les autres. Je ne peux me découvrir moi-même que dans un primat de négation. Vous voyez le système de Sartre. C'est exactement ça. Puisque en affirmation, je suis toujours second. En négation, je suis premier. L'attraction si forte de la négation. L'affirmation, c'est affirmer un autre moi, donc je suis second. La négation, je nie tous ceux qui ne sont pas moi. C'est-à-dire, moi, c'est la négation. Et je me découvre comme maître de tout par la négation. Donc, c'est très important de découvrir que l'être premier, en lui, nature et personne sont identiques, et donc, en lui, je dois découvrir cette nature. Il est l'être premier. Et cet être premier, parce qu'il est être premier, est un être spirituel. Et un être spirituel intelligent. Simplicité de Dieu. En Dieu, nature et personne ne font qu'un. En dehors de Dieu, nature et personne sont toujours deux. Pourquoi ? Parce que, en dehors de Dieu, tout dépend de l'acte créateur. L'acte créateur pose un effet. Et cet effet, il est et il n'est pas. Il est, puisqu'il est l'effet de l'acte créateur, et il n'est pas, parce qu'il n'est pas tout. Il est créé. Donc il est relatif à l'autre. Et donc, tout être créé n'est pas simple. C'est la première affirmation, je crois, d'un jugement de sagesse. Tout être créé n'est pas simple. Et quelle est la composition la plus profonde de l'être créé ? C'est-à-dire de moi-même. C'est nature et personne, je crois. Vous voyez, je suis loin des 24 tests mystes. Et en même temps, je suis très proche. Les 24 tests mystes ne diront pas que la première division qui est en moi, c'est nature et personne. Pourtant, c'est la première division qui est en moi, nature et personne. Et je dis, si je regarde bien nature et personne, je vois que nature, c'est mon essence. Et personne, c'est mon existence. essence et existence. C'est bien. Essence étant puissance, existence, acte et puissance. Mais voyez, cela se passe immédiat que je lis, tandis qu'au contraire, nature et personne, c'est vraiment la première division. Pas première au point de vue de l'être, mais première au point de vue subjectif. Tout ce qui s'impose à moi, c'est ma nature. Et ma nature, je ne la modifie pas tellement. Elle reste la même. Mais elle se découvre progressivement. L'enfant ne découvre pas sa nature tout de suite. Mais c'est toujours la même nature. Votre nature est la même que quand j'étais tout petit dans le berceau. Quand j'étais tout petit dans le sein maternel. C'est la même. Et la personne... Personne s'est développé. Alors vous avez là, seconde division, être et devenir. Et je crois que la première division, c'est nature et personne, et cette première division contient la seconde. Être et devenir. Dans toute créature, il y a une distinction entre être et devenir, parce que en toute créature, son être est limité, est en puissance, donc il doit s'enrichir, et il s'enrichit par le devenir. Il cherche son bien ailleurs. Est-ce que je vois ça, hein? Première division, nature, personne. Seconde division, c'est pas pour retrouver les 24 thèses, ça m'est égal. Seconde division, c'est être et devenir. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, entre nature et personne, la division être et devenir est essentielle? Je deviens une personne, je suis une nature. Vous ne dites pas, je deviens ma nature humaine. Hein? Je suis ma nature humaine. Mais vous dites, je deviens une personne. Et vous savez très bien que demain, vous serez plus personnel qu'aujourd'hui. Je deviens une personne. Donc, c'est juste de pouvoir traduire la distinction nature-personne par être et devenir. Ça a un avantage énorme, c'est parce que tout de suite, je retrouve un problème qui a été le problème foncier du début de ma philosophie, être et devenir. Est-ce que, et ça reste le problème aujourd'hui très actuel, est-ce que l'histoire est tout? Est-ce que l'histoire est sagesse? Être et devenir. Si vous faites la distinction entre être et devenir, Et vous voyez que tout devenir se termine dans l'être. Ou dans le néant. Et le devenir se termine dans l'être. Il est pour l'être. Le devenir. Je deviens une personne. Et je suis une nature. Ah. Attention. Je deviens une personne. Est-ce que tout devenir est ordonné à l'être alors? Pourtant, Satobol affirme tout devenir est en vue de l'être. Vous êtes bien d'accord avec ça? Tout devenir est en vue de l'être. Parce que le devenir, c'est un être imparfait. C'est un être qui en puissance. C'est pour ça qu'il devient. S'il était un être parfaitement en acte, il ne deviendrait pas. Il devient, il change, parce qu'il est en devenir. Parce qu'il est en puissance. Alors, si tout devenir est ordonné à l'être, je dois donc dire que ma personne est ordonnée à ma nature. Puisque ma nature, c'est mon être, et que ma personne, c'est le devenir. Vous me suivez? Et alors, j'arrive à être coincé. Donc, ma personne est pour ma nature. Or, ça, je ne peux pas l'accepter. Ma nature, elle va mourir. La personne, elle ne meurt pas. Hein, vous suivez? Si votre personne, si votre nature, elle doit mourir, elle doit disparaître. Et c'est vrai, ma nature, elle disparaît avec ma mort. Et j'ai une partie de moi-même qui demeure. Et cette partie de moi-même qui demeure, c'est ma personne. C'est mon intelligence, c'est ma volonté. C'est ma personne, c'est pas mon corps. Alors, quand je dis tout devenir est ordonné à l'être, il y a donc en moi un devenir qui dépasse l'être. C'est très important ce que je vous dis là, parce que ça fait comprendre pourquoi on a tout le temps la tentation de faire de l'histoire une sagesse. Il faut qu'on saisisse pourquoi. Et c'est vrai. Ce vieil adage grec, tout devenir est pour l'être, saint Thomas le répète, et vous le répétez avec saint Thomas. J'en fais l'application directe à moi-même, et je vois que ça ne colle pas du tout. Mon devenir principal, c'est d'acquérir une personne. Je deviens personnel, je deviens une personne. Alors, si mon devenir est ordonné à ma nature, au fond, c'est ma nature qui est l'essentiel. Mais alors, c'est terrible, parce que ma nature, elle va mourir. et ma nature va mourir, je suis bien obligé de le constater. Mais mon âme demeure. Et mon âme, c'est ma personne. Alors, vous voyez, il y a quelque chose de très particulier dans l'homme. C'est que l'homme est obligé de regarder que l'âme. L'âme, elle est source d'un devenir, mais d'un devenir très particulier. Parce qu'il y a une immanence dans mon devenir vital. Et c'est le propre de la vie. Il y a une immanence. Donc, mon devenir vital enrichit mon être. Et mon devenir vital ne disparaît pas comme toute espèce de devenir. Mon devenir vital, c'est mon être intérieur, pas mon être physique, mais mon être intérieur. Il y aura donc en moi cette distinction que je fais et que je suis obligé de faire. L'être dans sa manifestation corporelle et l'être dans son intériorité vitale. C'est deux choses différentes. Et le devenir, je dis qu'il est ordonné. Il n'est pas ordonné entièrement à la manifestation. Il est ordonné à mon devenir vital. C'est mon devenir vital qui s'enrichit, qui progresse par mes activités. Et donc, le devenir est ordonné à cet être intérieur, est ordonné à ce qui demeure. Alors je peux comprendre comment j'ai un devenir qui disparaîtra avec la mort, et j'ai un devenir qui, lui, est spirituel et qui est d'une certaine manière ma nature, mais pas ma nature totale, parce que mon corps, c'est aussi ma nature. Or, mon corps disparaîtra par la mort. Alors qu'au contraire, le devenir vital de l'esprit et de la volonté demeure au-delà de la mort. Ils sont victorieux de la mort. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que dans le christianisme, ce devenir vital de l'intelligence et de la volonté va un jour redécouvrir un corps spirituel. Vous voyez comment la résurrection des corps a un fondement naturel. Mon âme est lié au corps substantiellement, et donc quand mon âme est séparée de mon corps substantiellement, mon âme, je ne dis pas souffre, je ne sais pas, peut-être qu'elle souffre. que mon âme ne peut pas s'épanouir totalement, puisque mon âme s'épanouit totalement dans mon corps. Et c'est substantiel. À cette époque, c'est artificiel. Non, c'est substantiel. C'est toujours naturel. Donc, la résurrection des corps, que j'affirme au point de vue chrétien, est au fond un bien fondamentalement naturel. Faites attention, hein. Vous n'allez pas dire que Philippe dit que la résurrection des corps c'est naturel. Non, il faut l'intervention de Dieu pour que ça puisse se faire. Mais je veux dire qu'il y a dans mon âme un appétit fondamental à être uni au corps. Mon corps, autrement dit, mon corps n'est pas accidentel par rapport à mon âme. Mon corps, je suis mis à l'âme, pas par une union accidentelle, mais par une union substantielle. Et par le fait même, la mort a quelque chose de tragique, puisque c'est une séparation substantielle. Et c'est poétique de dire que le corps, c'est la vieille guenille. Non, non. C'est une union substantielle, donc naturelle. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qu'il faut maintenir philosophiquement. Et ça, c'est le philosophe qui, là, dit ben, la résurrection des corps. Elle est surnaturelle, elle se fait par Dieu, c'est évident, mais il y a un appel naturel à cette résurrection des corps. Et vous voyez, ceci, c'est le point de vue vital. Mon devenir de vivant est un devenir vital. Et ce, parce que c'est un désir vital, ce n'est pas un désir accidentel. Mais c'est un devenir essentiel à ma vie. Et mon corps est uni substantiellement, donc essentiellement, à mon âme. C'est curieux, hein. Et c'est très important. Je suis parti tout simplement de la distinction devenir et mouvement. Et je dis tout mouvement est ordonné à l'être. Et je vois ce cas tout à fait particulier. Tout devenir est ordonné à l'être, mais est ordonné à quel être ? Pas un être extrinsèque, un être immanent. Le devenir de mon âme. Et il est immanent. Je peux donc considérer, en faisant grande attention, hein, en l'appliquant de façon intelligente, nature et personne implique une autre division, être et devenir. Mais ce n'est pas adéquat, parce que nature et personne. La personne est à l'origine d'opération. Ma nature est à l'origine de mon être substantiel. De sorte que il y a quelque chose dans ma nature qui est essentiellement uni à ma personne. Ma personne ne se développe pas en dehors de ma nature. C'est là l'erreur moderne de croire que ma nature n'est pas présente dans ma personne. Et ça, c'est quand même très important. Je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni, ce qui a été uni par Dieu. Je peux distinguer, mais pas séparer.